8h15, notre invité ce matin est Nicolas Danet, spécialiste de l'activisme. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Bienvenue. Alors, vous publiez avec Frédéric Bardot un livre sur les Anonymous, ça s'appelle Anonymous, tout simplement. Tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est. C'est d'ailleurs un peu compliqué de cerner ce qu'est ce mouvement, qui sont ces gens, ce qu'ils font. Vous tentez à un moment de décrire ce qu'ils ne sont pas, hein, au milieu du livre. On sait que ça n'est pas une association ni une ONG. Anonymous ne s'appuie sur aucune structure légale, sont déposés sur aucun registre officiel, mais ses membres sont légions. Ça fout un peu les jetons, non?
Et oui, c'est-à-dire qu'effectivement, ils peuvent faire peur. Cela dit, leur spécificité, c'est aussi qu'on peut tous en être, quelque part. Donc, au final, si on peut les craindre, on peut aussi tous autant qu'on est, porter un masque et quelque part devenir Anonymous.
Bertrand.
Alors, la chose qui est très intéressante dans votre livre, c'est que vous expliquez que c'est le prolongement du phénomène des hackers, qui naît dès le début d'Internet et de la contre-culture, enfin qui prend sa racine dans la contre-culture. Donc au départ, c'est un mouvement qui est quand même relativement dépolitisé. Donc on peut le dire comme ça. Et que de ce point de vue, l'histoire de Julian Assange que vous racontez commence comme hacker contre Nortel pour finir avec Wikileaks. À quel moment se fait la bascule vers une forme de politisation?
Et en fait, je dirais depuis le début quelque part, puisque quand on voit la contre-culture des années 70 aux États-Unis, elle est très politisée. Et quand on voit les premiers hackers des années 70 et puis après, surtout des années 80-90, je prends par exemple l'exemple de l'Electronic Disturbance Theater, qui était un groupe de hackers, qui s'est par exemple, dès dans les années 90, engagé aux côtés du commandant Marcos, aux côtés des insurgés qu'il y avait au Mexique. Donc en fait, le côté politique des hackers, il est extrêmement fort dès le début du hacking.
C'est quoi l'intérêt de ce mouvement? Il y a beaucoup d'associations dans le monde, beaucoup d'organisations, beaucoup de partis politiques, beaucoup de syndicats. Enfin, on peut se retrouver à un moment donné ou à un autre dans l'une d'entre elles. C'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'être un Anonymous?
Ben vous dites, on peut se retrouver dans l'une d'entre elles. En fait, le fait est qu'on s'y retrouve de moins en moins et que les syndicats ou les associations connaissent quelque part aussi une baisse de popularité, enfin, ou en tout cas de recrues en leur sein, alors qu'Anonymous, c'est complètement l'inverse. Et justement, je pense, parce que l'organisation est différente et qu'il est possible de se connecter ou de se déconnecter d'Anonymous ou plutôt d'opérations qu'Anonymous organise, pour pouvoir faire passer un message qu'on a sans doute de plus en plus de mal aussi à faire entendre aux pouvoirs politiques ou économiques qui sont à l'œuvre dans la société.
Alors pour revenir, c'est marrant, vous faites un petit peu d'histoire, là on va pas revenir aux origines de la cyberculture, mais on vous situe la naissance des Anonymous avec le site 4chan en fait, tout simplement sur les forums.
Ce bac à sable, oui.
Vous appelez ça un bac à sable?
C'est une sorte de bac à sable du web si on veut, oui.
De côté obscur du web où on trouve un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qui s'est passé là, sur ce site, sur ces forums?
Alors peut-être ce qu'on peut dire, le lien explicite entre Anonymous et 4chan, c'est le nom même Anonymous, puisqu'en fait quand on poste sur 4chan, la spécificité, c'est qu'on peut le faire sans s'être inscrit auparavant. Et donc du coup,
on est anonyme.
On est par définition, mais même textuellement, c'est-à-dire que sur le site, on voit apparaître Anonymous, donc on peut l'écrire sans A majuscule pour le coup, et c'est de là que vient le nom Anonymous.
Alors, comment les gens... Oui, Bertrand.
Non, vas-y.
Comment est-ce qu'un mouvement a pu se créer à partir de gens anonymes sur des forums qui, par définition, au départ, font pas grand-chose à part, si je peux me permettre, partager des photos.
Alors, ils font pas grand-chose, mais ils sont quand même énormément, et il y a énormément de choses qui sont partagées. Quand on le regarde, c'est quand même assez fascinant. Alors, parfois, effectivement, ça peut être aussi assez sale à voir, mais c'est quand même assez fascinant puisqu'il y a un échange, une modification, c'est ce qu'on appelle les mèmes, hein, les modification des images, une reprise, détournement de la culture, de la pop culture, qui est assez fascinante. Donc ils font des choses et qui sont des choses qui nourrissent le web finalement. Quand on voit des lolcats partagés sur Facebook, et ben quelque part ils viennent souvent de 4chan. Et ensuite pour s'organiser, ben ils sont allés sur des canaux IRC, qui sont des forums de discussion un peu plus, on va dire, restreints, où ils pouvaient parler entre eux. Et là ils ont effectivement commencé à organiser des opérations.
Il y a une attaque récente dont on a beaucoup parlé, qui était l'attaque contre Sony, hein, vous l'évoquez dans le livre, et vous l'intégrez à un moment donné, vous dites qu'il y a des choix de cibles très très précises. Alors est-ce qu'aujourd'hui ces cibles sont plus politiques ou plus économiques? Parce que Sony c'est clairement une cible économique, et ça c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'il y a des entreprises des multinationales qui trouveraient, j'allais dire, par l'image qu'elles véhiculent, une espèce d'impunité. Je pense par exemple à une maison comme Apple.
Alors, sur le premier point, on est clairement maintenant sur une dimension qui est plus politique. On voit un des principaux blogs qui est revendiqué, Anonymous, qui soutient depuis le début, en fait, le mouvement Occupy Wall Street et Occupy dans le monde entier. Donc là, pour les derniers événements, on est clairement sur ce genre d'opération. Il y avait récemment aussi d'autres mouvements, plus d'autres opérations, encore une fois, assez spécifiques sur les banques. Et donc là, bon, on est à la frontière, si vous voulez, de l'économique et du politique, puisque c'était des opérations où on demandait aux gens de la population américaine en général de retirer l'argent des banques, un peu comme l'avait demandé Cantona en France, de retirer l'argent des banques et de les mettre dans certaines banques qui étaient plus éthiques. Donc si vous voulez, oui, à la fois politique, mais en même temps économique sur des choses qui sont en tout cas centrales dans la société.
Qui dirige les Anonymous aujourd'hui ? Qui gère ce mouvement ? Parce que s'il n'y a personne, ça laisse libre cours à toutes les dérives. Comment vous faites pour... Il y a une charte ? Il y a quelque chose ?
Alors moi, je ne fais pas. mais par contre, si on va sur les forums IRC, si on va sur les endroits où ces gens discutent, on se rend compte que c'est le fait d'être ensemble et le fait de discuter qui crée l'organisation. En fait, c'est ce qu'on appelle la douocratie, en anglais, faire, quoi. C'est en faisant qu'on arrive à s'organiser. Alors effectivement, il y a des modérateurs, des gens qui, sur les forums, peuvent dire ben voilà, vous n'avez pas, vous respectez certaines règles, donc vous allez être banni pendant une ou deux journées. Ça arrive. Seulement, c'est vraiment la discussion entre ces personnes-là. C'est assez compliqué à concevoir, mais si vous voulez, c'est vraiment en parlant et en faisant, surtout, que ces gens-là arrivent à s'organiser.
Il n'y a pas de chef, Thierry.
Mmh. Ah, mais du coup, les prolongements, alors, c'est quoi ?
Les prolongements ?
Oui, après ça.
Que va devenir Anonymous ?
Ouais.
Et en fait, ça, personne ne le sait. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont réussi, à mon avis, à insuffler dans la société une sorte d'une part de vent de liberté qu'ils revendiquent. Et en plus, ils commencent à faire passer la cyberculture et ce qu'elle revendique, la liberté d'expression, la capacité d'Internet à faire s'organiser les gens entre eux, sans passer nécessairement par des associations, par des superstructures ou des entreprises, par exemple. Ça, ces idées de la cyberculture, je pense qu'Anonymous les représente et est en train de les faire passer dans la société.
Il n'y a pas de chef, mais il y a quand même des modérateurs et il y a quand même des gens qui dirigent le truc.
Il est vexé.
Sinon, ça ne peut pas fonctionner.
Nicolas Danet, spécialiste de l'activisme, est notre invité ce matin. On parle des Anonymous. La suite, juste après le journal de 8h30. Et c'est où Georges, sur Nova.
Nova. Nova. Le grand mix.
Le feu roulant. Des questions sans concession.
En quoi l'éthique des hackers, enfin s'il y en a une, hein, rejoint-elle la critique du capitalisme, de l'idéologie du capitalisme ?
Elle la rejoint pas forcément, puisqu'en fait, il y a beaucoup de hackers qui sont devenus des capitalistes. Si on prend Steve Jobs, par exemple, c'est un très bon exemple. C'était un hacker, et puis c'est devenu un capitalisme assez sympathique.
Sympathique, c'est-à-dire ?
Disons, dans la logique du capitalisme, il a plutôt bien réussi.
Certains parlent d'effet stressant, mais moi je préfère l'expression effet flambi. Qu'est-ce que c'est ?
L'effet flambi, c'est très drôle, surtout le matin, quand on a un peu faim. L'effet flambi, c'est on prend un flambi, et on pose sa main dessus un peu violemment, et donc du coup, il y a des morceaux de flambi qui partent sur tous les murs. C'est ce qui se passe quand, par exemple, on publie une photo de nous sur Internet et qu'on demande à ce qu'elle soit supprimée. Et dans ce cas-là, l'effet qui se produit, c'est que tout le monde va se focaliser sur la demande de suppression et donc faire une diffusion de cette image que l'on ne voulait pas voir diffuser.
Donc on retrouve l'image après aux quatre coins du web.
Voilà, tout simplement parce qu'on l'a demandé à la supprimer.
Bertrand Delay.
Pourquoi la première chose dans votre bio sur la quatrième de couve de votre livre, quatrième de couverture, c'est votre adresse Twitter, votre compte Twitter.
J'avais peur d'un détail que j'avais oublié. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de nous contacter et que quelque part on est aussi ouvert à n'importe quelle discussion. Donc effectivement Twitter qu'on utilise, Fred comme moi, beaucoup.
Les Anonymous interviennent-ils offline dans la vraie vie comme on dit ?
Oui, ils interviennent offline depuis 2008 à peu près, depuis le combat contre la Scientologie. Où il y a un personnage assez intéressant qu'on décrit dans le livre qui s'appelle The Wise Beard Man, qui est un journaliste américain qui luttait contre la Scientologie depuis longtemps et qui, quand il a vu Anonymous se mobiliser contre la Scientologie, leur a dit « Attention les gars, ce serait bien que vous fassiez aussi des choses différemment ». Et il leur a proposé par exemple d'aller manifester dans la rue. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu les Anonymous porter les masques face à des églises de la Scientologie, que c'était à New York ou dans plusieurs villes des États-Unis.
Il n'y a pas un mot d'ordre, une ligne de conduite ou un objectif, mais plusieurs, et elles sont parfois antagonistes d'ailleurs.
Ouais, tout à fait. Par contre, il y a une chose qui est certainement un fil rouge au sein d'Anonymous, c'est la défense de la liberté d'expression. Dans la très grande majorité des opérations qui sont menées, la liberté d'expression...
Mais ça, tout le monde le dira, ça.
Oui, mais tout le monde ne fait pas pour autant des opérations pour défendre la liberté d'expression.
C'est-à-dire, quand on a essayé de faire taire Wikileaks, par exemple, la réponse a été violente, quoi.
Tout à fait. Quand les banques ont, sous pression, décidé de couper les vivres à Wikileaks, on a vu que Anonymous était mobilisé, parce qu'en fait, il y a des parentés, clairement, on en parlait tout à l'heure, entre Anonymous et Wikileaks, puisque Wikileaks, c'est Julian Assange qui se trouve derrière, et que lui se trouve être un hacker. Et ces liens de parenté font qu'effectivement, il y a une très forte connivence entre les deux.
Bertrand ?
La chose qui est un peu gênante, c'est qu'on vous entend, on a l'impression qu'on est au pays de oui-oui quand même. C'est-à-dire que c'est des gens gentils, pavés de bonnes intentions, tout. Mais par exemple, Julian Assange, on sait, il a eu des contacts avec des États peu recommandables pour avoir des informations. Donc c'est pas non plus uniquement des gens gentils.
Gentil ou non, c'est assez compliqué. Ce qui est, enfin, en tout cas, moi, je porte pas de jugement de valeur sur le mouvement. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que il se mobilise pour défendre certains idéaux. Alors après, ces idéaux peuvent être parfois critiquables. Les méthodes d'action peuvent être aussi critiquables. Les attaques d'os, ce sont des choses qui sont juridiquement condamnables. Donc, est-ce que c'est pour faire planter un site ? C'est pour faire pas planter un site, oui, si vous voulez. C'est pour empêcher à d'autres personnes de se connecter à ce site-là. Donc, on détruit pas de données. Par contre, on empêche à des gens de se connecter à ce site-là. Parfois, il y a des gens qui considèrent ça comme une sorte de sit-in en ligne. Mmh. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. En tout cas, c'est juridiquement c'est condamnable.
Alors, on veut du concret. Quels sont les derniers faits d'armes de la Légion?
Dernière chose qu'on a vu apparaître, c'était avant-hier, si je me souviens bien, c'est une vidéo qui montre Anonymous aux côtés d'un groupe qui s'appelle Team Poison, qui est un groupe de hackers, un peu trouble, et ils ont monté ensemble, en tout cas on a l'impression qu'ils sont en train de monter ensemble, une opération qui s'appelle Robin Hood. Et l'enjeu de cette opération...
Robin Desbois.
Merci Hermel.
L'enjeu de cette opération, ce serait hacker des banques, pour faire sortir de l'argent, donc hacker des banques, hacker des numéros de carte de crédit, etc., pour qu'ensuite les banques remboursent les gens à qui appartient cet argent.
Bon, je vais réfléchir à cette action un peu plus tard. Et peut-être pour conclure là-dessus, vous faites un lien entre Anonymous et les indignés, par exemple, d'Espagne, de Wall Street, ou même le printemps arabe. Qu'est-ce qui lie tous ces mouvements ?
Qu'est-ce qui relie tous ces mouvements ? Ouais. En fait, c'est... Alors, je pense que c'est finalement les images. Quand on voit les images des indignés, quand on voit les images d'Occupy Wall Street, quand on voit par ailleurs les images d'Anonymous, y a une chose qu'on voit partout, c'est le masque. Et quelque part, en fait, je pense que ces mouvements ont, et en tout cas Anonymous, sont des hackers, mais sont aussi des hackers de la société de l'information. Et le fait qu'on voit partout se développer ces masques, qu'on associe à un même mouvement et qu'on associe à cette même idée de défense quelque part des 99% ou défense de la liberté d'expression. Mais ça crée quelque part une information qui est différente.
En tout cas, l'entreprise qui fait les masques vous remercie beaucoup.
Alors, moi,
enfin, l'air,
une fois,
merci
non.
Beaucoup, hein, on est d'accord.
Mais la Warner, effectivement, gagne beaucoup d'argent et ça leur pose des problèmes. Ils savent pas trop comment se positionner par rapport à ça.
Anonymous par Nicolas Danet et Frédéric Bardot. Nicolas, on vous retrouve dans un petit instant, juste après Chapier et Sola Rosa, côté musique.
Nova. Le grand mix.
Notre invité ce matin, Nicolas Danet, on parle des Anonymous, on en a beaucoup parlé, enfin beaucoup pendant un quart d'heure. Je vous vois trifouiller votre téléphone depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez tweeté pendant l'émission là ? Qu'est-ce que vous avez balancé comme saloperie pendant qu'on n'écoutait pas ?
Non, j'ai juste tweeté ma crainte des voix robotiques que j'ai entendues en arrivant dans le studio et qui m'ont pratiquement empêché de rentrer.
Les voix robotiques ?
Oui, il y avait une voix robotique que j'ai entendue en arrivant. Je pense que c'était
la
voix de Moody's.
Ah oui,
elle fait
gourou.
Flipper celle-là. J'ai quelque chose qui fait flipper aussi. Ouais. Tenez, je la fais passer par tout tiens. Autour de la table, on est obligé de la
Nicolas,
sous-poser.
Nicolas, on te donne cette valise, cette mallette.
Il faut prendre les mallettes qu'on
donne. Voilà, c'est la république des mallettes, donc à toi de voir. Pas obligé, hein. Pas obligé. Mais bon, visiblement,
t'as
pas du gain, quoi, hein.
En même temps, quand on traîne toute la journée sur 4chan, on peut ouvrir une mallette.
Hein. c'est une très belle image, en tout cas.
C'est quoi ?
Alors, il faut que j'explique ce que c'est.
Ouais.
C'est écrit Pantin du Prince, c'est la couverture d'un album. de Black Noise. Qui est un donc un Portrait du Prince, c'est de la musique électronique, c'est de la deep house berlinoise, et c'est effectivement une musique que j'ai écoutée en écrivant le livre beaucoup.
Vous pouvez nous le chanter parce qu'on l'a pas sous la main là.
Chanter de la deep house berlinoise.
Ouais.
Vous êtes vraiment rude. Non, c'est pratiquement impossible. L'idée étant d'ailleurs de cette musique qu'il n'y ait pas de chanteur, pas de leader. Donc c'est là où il y a un petit rapport un peu avec Anonymous.
Nicolas Danet et Frédéric Bardot qui étaient avec ses enfants ce matin pour Anonymous qu'on vous conseille chaleureusement. Merci beaucoup d'être venus.
Merci à vous.
Merci.
À bientôt. Ciao.